France Culture.
Signé Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Des discussions autour d'un cessez-le-feu, d'une rencontre Zelensky-Poutine, d'un échange de prisonniers. Il y a finalement eu des pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Istanbul, mais la rencontre aura été de courte durée et les résultats, sans surprise, plutôt faibles. Les explications de Marie-Pierre Véraud dans un instant. 47 pays réunis à Tirana en Albanie au sommet de la communauté politique européenne. Emmanuel Macron fustige l'ingérence russe en Europe. La bande de Gaza, les Gazaouis attendent dans l'angoisse le déploiement de forces israéliens, l'ultimatum d'Israël au Hamas va expirer. En France, la dernière ligne droite du procès, le Skouarnek, l'un de ses collègues qui a participé à son recrutement, a été entendu, audience tendue. Le témoin risque d'être poursuivi pour faux témoignage. Beaucoup de bruit, pourquoi ? Il ne fallait sans doute pas avoir trop d'attentes du rendez-vous russo-ukrainien à Istanbul, les premiers pourparlers depuis 3 ans, et pas forcément les mêmes buts poursuivis par les uns et par les autres, une trêve ou bien une discussion sur les causes du conflit. Vladimir Poutine n'aura pas mis les pieds en Turquie, contrairement à son homologue Volodymyr Zelensky. Bonsoir Marie-Pierre Véraud. Marie-Pierre Véraud n'est pas là, mais écoutez, on la retrouvera dans un instant. Volodymyr Zelensky, lui, a quitté hier soir donc Istanbul pour se diriger vers Tirana, recevoir le soutien des Européens. C'est en Albanie que se déroule le sommet de la CPE, la Communauté politique européenne, cercle de 47 pays européens, une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement, donc membres de l'UE ou pas. Ou encore avec donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore la présidente moldave Maia Sandu. En séance plénière, Emmanuel Macron s'est montré très préoccupé par les ingérences étrangères, notamment russes, et les manipulations électorales dont sont victimes de plus en plus de pays en Europe.
Nous voyons à travers nos élections, la Roumanie le vit en ce moment, je l'évoquais, la Moldavie l'a vécu il y a très peu de temps, des menaces qui sapent l'intégrité de nos démocraties, qui minent leur résilience, et nous subissons des manipulations lors des périodes électorales, des ingérences informationnelles étrangères à peu près tout le temps. Et c'est quelque chose qui sape la sécurité démocratique de notre Europe. Et donc face à cela, nous avons lancé à Blenheim l'initiative qui a été portée avec Maia Sandu en créant un réseau de points de contact au niveau de la CPE pour améliorer la coopération entre nous. Et il faut aller plus loin en protégeant mieux nos infrastructures critiques face aux cyberattaques, en renforçant nos cadres réglementaires sur les contenus illicites en ligne, en traquant les flux financiers qui alimentent tout ça.
Emmanuel Macron au sommet de la CPE à Tirana. On va revenir à Istanbul. On a retrouvé Marie-Pierre Véraud. Bonsoir Marie-Pierre.
Bonsoir à vous.
Voilà, ce que je disais à l'instant, c'est que deux délégations se seront tout de même parlées sous l'égide de la Turquie et pendant un peu plus d'1h30, même si les résultats sont plutôt faibles.
En effet, elles se sont parlé pour mettre sur la table leur désaccord. La réunion a vite tourné à un dialogue de sourds, l'Ukraine accusant la Russie de formuler des exigences territoriales inacceptables, juste dont l'objectif de faire dérailler le processus. L'Ukraine qui répète sa demande d'un cessez-le-feu inconditionnel pour que des pourparlers de paix puissent se dérouler sans la menace des bombes. Une demande d'ailleurs reprise par le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, l'artisan de cette rencontre.
Alors que la guerre continue de faire des victimes, il est essentiel qu'un cessez-le-feu soit mis en œuvre dès que possible. L'occasion se présente de parvenir à ce cessez-le-feu dans le cadre de ces négociations. Deux voies se présentent à nous pour la phase à venir. L'un des chemins nous mènera à la paix et l'autre entraînera davantage de destruction et de pertes en vie humaine.
Mais la partie russe répond simplement que chacun doit maintenant détailler sa vision d'un tel cessez-le-feu. Quant à la demande d'une rencontre entre Zelensky et Poutine, elle dit en prendre bonne note. On sait ce qu'il en sera au final. Les deux parties ne se seront accordées que sur un point, certes non négligeable, mais d'évidence bien insuffisant. C'est un échange de prisonniers dans les prochains jours. Échange massif, dit la Russie, 1000 soldats de chaque camp. L'échange de prisonniers, c'est bien le seul domaine dans lequel ces deux parties ont pu coopérer depuis le déclenchement de la guerre. guerre. Et si l'Ukraine est amère ce soir, hein, après ces pourparlers qui n'auront pas fait progresser les perspectives de paix d'un iota, la délégation russe, elle, se veut sereine. Elle se dit dans l'ensemble satisfaite du résultat, prête à poursuivre les contacts. Elle était venue ici pour en fait ne rien négocier de tangible. Eh bien, elle repart avec cette mission accomplie.
Merci Marie-Pierre Véraud, en direct d'Istanbul. L'échéance donnée par Israël au Hamas pour accepter une trêve aux conditions dictées par l'État hébreu arrive à son terme ce soir avec le départ de Donald Trump de la région. Les bombardements israéliens sont d'une violence rare ces derniers jours et le nombre de victimes est très élevé, 250 morts en 3 jours selon des sources palestiniennes. Et les négociations à Doha restent au point mort. Michel Paul, RFI à Jérusalem pour France Culture.
Après 3 jours de négociations dans la capitale qatarienne, aucun progrès n'a encore été enregistré. Et dans les heures qui viennent, selon les médias ici, la délégation israélienne toujours présente à Doha pourrait être rappelée. Israël avait lancé un ultimatum au Hamas pour qu'il accepte le plan initial proposé par l'émissaire américain Steve Witkoff, la libération en tout de 10 otages, accompagnée d'une trêve de 6 semaines. Apparemment, les positions des deux parties demeurent inflexibles malgré les efforts déployés par les médiateurs, et Israël menace maintenant de lancer une nouvelle offensive terrestre intitulée « Les chariots de Gédéon ». Son armée dit avoir frappé plus de 150 cibles dans l'ensemble de la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, des frappes particulièrement intense, qui, indiquent des sources sécuritaires israéliennes, sont destinées à préparer une entrée des unités de blindés de l'infanterie israélienne. Cet après-midi, le Forum des familles d'otages appelle une nouvelle fois Benjamin Netanyahou à ne pas manquer une occasion historique pour libérer des otages encore retenus dans la bande de Gaza.
Ce qui se passe à Gaza ne profite à personne, affirme Dora Bakoyanis, la rapporteuse de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui dénonce une famine délibérée. Le procureur de la Cour pénale internationale visé par une enquête depuis le mois de novembre pour faute présumée quitte temporairement ses fonctions. La procédure est menée par des enquêteurs de l'ONU, a déclaré le bureau du procureur. Plusieurs médias font état d'accusations de comportements sexuels inappropriés. C'est un appel d'1 million d'Européens signataires de 27 pays de l'Union. Un appel à interdire les thérapies de conversion des personnes LGBT+. Des thérapies qui ressemblent plus souvent à des sévices, au retentissement psychologique durable et qui prétendent modifier notamment l'orientation sexuelle d'une personne. Parmi les signataires de l'appel, on trouve l'ancien Premier ministre Gabriel Attal ou la chanteuse Angèle. La Commission européenne est tenue d'y répondre, mais rien ne l'oblige à transformer cet appel en nouvel acte européen. Selon l'association ILGA, les thérapies de conversion ne sont complètement interdites que dans 8 pays de l'Union, dont la France. Les crypto-monnaies se portent très bien et les propriétaires, un PDG de sociétés spécialisées, sont désormais la proie des kidnappeurs. Dernière affaire cette semaine, la fille et le petit-fils du PDG d'une société de crypto-monnaies qui ont réchappé à une tentative d'enlèvement en plein Paris. Bruno Retailleau recevait aujourd'hui les acteurs du secteur des crypto-monnaies, une réunion à huis clos avec 12 participants dont l'identité n'a pas été révélée. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir.
À l'issue de cette rencontre, le ministre a présenté un arsenal de mesures dont 4 sont applicables immédiatement pour dissuader les agresseurs et protéger les entrepreneurs.
Oui, à commencer par des formations sécurité pour les potentielles cibles. Elles seront dispensées par les forces de l'ordre, le GIGN, le RAID, la BRI, la Brigade de Recherche et d'Intervention. Signe que la menace corporelle est prise très au sérieux, nous dit Alexandre Stachenko du groupe de crypto-monnaie Paymium.
C'est prendre conscience de son environnement, prendre les bons réflexes, tout ce qui relève du monde physique. On peut avoir des serveurs qui sont protégés autant qu'on le souhaite. S'il y a une camionnette qui s'arrête avec des gens armés, on n'est pas dans le même domaine.
Alors ça concerne les patrons d'entreprises de crypto-monnaies, mais aussi les détenteurs de capitaux importants et leurs proches. Parce que dans les affaires récentes, vous le disiez Nicolas, ce sont aussi les familles qui ont été visées. En complément, tous ces gens auront un accès prioritaire au 17, au numéro d'urgence, et leurs domiciles seront sécurisés par la police et la gendarmerie. Voilà pour les mesures immédiates. En parallèle, Bruno Retailleau redit le plein investissement des pouvoirs publics pour retrouver les commanditaires des attaques. Ceux qui ciblent les cryptos aujourd'hui sont ceux qui visaient les bijouteries hier, dit-il. Il faut donc que les professionnels se protègent aussi de leur côté, sur Internet notamment. Et c'est là que ça coince, nous dit Alexandre Stachenko, car les transactions de cryptoactifs sont des démarches traçables et les différents règlements sur la transparence ne leur permettent pas de protéger leurs données.
Ça commence à devenir des données comme l'adresse physique, le patrimoine, tout ce qui peut être collecté est collecté, y compris lorsque ça n'a aucun sens. Et ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience générale que la lutte contre la confidentialité, de l'anonymat, etc., qui est en vogue depuis une quinzaine d'années, va dans le mauvais sens.
Cette question, conclut-il, nécessite une réflexion à moyen terme et sera abordée au cours d'une prochaine réunion avec le ministre, les entrepreneurs et les forces de l'ordre.
Merci Mathilde Cariou. Ils œuvraient jusqu'ici dans une relative discrétion. Les Horaces sortent de l'ombre. Les Horaces, c'est ce cercle censé rassembler depuis 10 ans des experts, des hauts fonctionnaires intellectuels, chefs d'entreprise pour conseiller Marine Le Pen. Ils ont lancé ce matin leur site internet, une chaîne YouTube et ont à cette occasion tenu une conférence de presse, la première, toute première depuis leur création en 2015, avec la volonté affichée de se mettre au service de la triple et peut-être, ils espèrent, quadruple candidate à la présidentielle. Rosalie Lafarge.
Ça fait 10 ans qu'ils travaillent pour Marine Le Pen. Avec Marine Le Pen, ils n'ont visiblement aucune envie de changer de poulain. Les Horaces, c'est écrit en gras sur leur site internet. Leur réflexion est dédiée au projet présidentiel de Marine Le Pen, dont ils publient une longue interview autour de son parcours et de sa vision pour la France. C'est aussi revendiqué dans la vidéo de lancement de leur chaîne YouTube. Ils y expliquent vouloir devenir plus visible, plus audible.
Tout ça, bien sûr, toujours au service exclusif de la candidature de Marine Le Pen à la présidence de la République.
L'eurodéputé André Rouget, fondateur des Horaces.
Nous prenons des initiatives sur différents sujets que nous soumettons à l'approbation, à l'arbitrage de Marine Le Pen et des instances. Pour l'instant, c'est elle la candidate naturelle. Nous croisons les doigts et s'il devait par malheur survenir qu'il en aille autrement, les Horaces apporteront le fruit de leurs travaux au candidat naturel du Rassemblement national.
Exclusivité à peine relativisée, donc le nom de Jordan Bardella n'est qu'exceptionnellement cité par ceux qui s'assument désormais publiquement. Ils disent être une cinquantaine, attirer de plus en plus de jeunes diplômés volontaires pour étoffer l'hypothétique projet présidentiel. Sauf qu'autour du fondateur aujourd'hui, aucune nouvelle personnalité, uniquement des parlementaires, députés ou eurodéputés. Le site comme la chaîne ne donne pas l'identité de ces hauts fonctionnaires, magistrats, médecins, diplomates, industriels, revendiqués, mais manifestement pas encore tous prêts, à ce stade en tout cas, à le révéler.
Une nouvelle audience orageuse au procès de Joël Le Skouarnec. L'ancien chirurgien comparaît depuis bientôt 3 mois devant la cour criminelle de Vannes. Il est poursuivi pour viol et agression sexuelle sur 299 victimes, des jeunes garçons et filles pour la plupart, d'anciens jeunes patients. Le procès est entré dans sa dernière ligne droite. Les dernières parties civiles qui le souhaitent sont entendues aujourd'hui. Mais avant elle, c'est un ancien collègue de Joël Le Skouarnec qui s'est présenté à la barre des témoins en tant qu'ancien président de la commission médicale d'établissement de Jonzac. Il avait participé au recrutement de Joël Le Skouarnec à l'hôpital de Jonzac en 2007. Florence Turme.
73 ans, cheveux blancs, la voix docte et assurée, Henri Sandillon résume les conditions de recrutement de Joël Le Skouarnec dans un contexte de crise où des menaces de fermeture pesaient sur les petits hôpitaux de province. Il venait de Quimperlé, il nous manquait un chirurgien, je n'avais aucune connaissance de son passé. Vous ne saviez pas qu'il avait été condamné pour détention d'images pédopornographiques, intervient la présidente. Devant les enquêteurs, vous avez indiqué « je l'ai appris de sa propre bouche dans les temps qui ont suivi sa titularisation ». Je n'ai pas souvenance de cette phrase. La magistrate se raidit et d'avoir déclaré quel con il a récidivé. Je rappelle que vous déposez sous serment. L'ancien médecin n'en démord pas. Non, si j'avais su, j'aurais mis mon veto. Il se rappelle seulement que Joël Le Skouarnec lui a parlé de bêtises. Et je ne l'ai pas interrogé, je ne suis pas enquêteur. Mémoire fuyante et quelques dérapages à la clé. Quand on le questionne sur le manque d'hygiène de son ancien collègue, on reçoit aussi beaucoup de gens qui ne sentent pas bon. Les parties civiles s'indignent, on ne peut pas recruter un médecin dans un hôpital public sans avoir son casier judiciaire et la directrice assure qu'elle le savait. L'avocat de l'accusé lui-même s'insurge. Joël Le Skouarnec a dit qu'il vous avait fait part de sa condamnation. Je ne pense pas qu'il mente, répond le témoin, mais qu'il minimise. Et à l'avocat général rouge de colère, je maintiens avoir mal lu ma déposition devant les gendarmes. Nous en tirerons toutes les conséquences, monsieur. La présidente fait acter l'incident. L'ancien médecin pourrait être poursuivi pour faute témoignage.
Verdict attendu le 28 mai prochain. C'est l'histoire d'une petite marque chinoise devenue en quelques années un mastodonte de la fast fashion, des vêtements vendus à bas coût dans le monde entier. L'enseigne de commerce en ligne Shein. Bonsoir Elodie Guéguin.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes journaliste à la cellule Investigation de Radio France et vous avez enquêté sur ce géant de la fast fashion qui, en France, déploie de gros moyens pour tenter de contrer une loi destinée à lutter contre son impact environnemental.
Oui, une proposition de loi qui prévoit notamment un bonus-malus écologique et l'interdiction de la publicité pour ce type de plateforme. Alors, pour tenter de contrer ce texte, Shein et son PDG, Donald Tang, ont sorti le grand jeu en faisant notamment appel aux plus grandes agences de communication de crise, comme en témoigne le président de la Fédération de l'habillement, Pierre Talamon.
Moi, j'ai rencontré à deux reprises Donald Tang. Ça a été fait auprès de leur agence de cellules de crise, Plaid, qui appartient au groupe Bolloré. Et on retrouve un dimanche, dans le JDD, un grand article de Donald Tang pour défendre les mérites de Chine.
Le journal du dimanche, je le précise, propriété du groupe Bolloré. Autre exemple, la célèbre influenceuse Magali Berda, figure de la télé-réalité, est appelée à la rescousse. Écoutez-la dans cette vidéo postée la semaine dernière sur les réseaux sociaux.
Bonjour à tous. Comme vous l'avez vu, je suis partie à la rencontre des Français cette semaine concernant le projet de loi visant à réduire l'impact écologique du milieu du textile. Et ce que je retiens de nos échanges, c'est qu'ils ne comprennent pas pourquoi elle ne vise principalement que Shein et ses clients et non pas les autres enseignes, d'autres sites, d'autres magasins.
Dans cette vidéo, Magali Berda relaie une campagne de publicité de Shein sur le thème « La mode ne doit pas être un luxe ». La marque fait également appel à d'anciens responsables politiques en embauchant par exemple l'ex-commissaire européen au budget, l'allemand Günther Oettinger. Autre recrue de choix, l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Écoutez ce qu'en dit le porte-parole de Chine en France, Quentin Ruffa.
Nous avons jugé que Christophe, de par son activité, de par sa connaissance du terrain, aujourd'hui Christophe Castaner est dans la société civile, pouvait nous aider à mieux comprendre le maillage territorial français sur nos initiatives sociales, économiques et environnementales.
Mais derrière cette mission, c'est bel et bien le carnet d'adresses de Christophe Castaner qui intéresse Chine, estime Jordan Alouche, le fondateur d'Ecolobby, un cabinet de conseil qui fait du lobbying pour la transition écologique.
On peut s'interroger sur les conséquences de se payer ce super lobbyiste ou ce super VRP de luxe. En réalité, Chine s'offre là les compétences de Christophe Castaner, mais aussi ses réseaux, ses contacts et puis son capital relationnel.
De son côté, Christophe Castaner explique qu'il n'est pas intervenu auprès des parlementaires et que sa mission vise à développer les bonnes pratiques de Chine. Il ne dévoile pas le montant de sa rémunération, protégée selon lui par le secret des affaires.
Élodie, est-ce que ces moyens déployés par Chine ont été efficaces ?
Eh bien, on peut légitimement se poser la question, Nicolas. La proposition de loi votée l'an dernier à l'unanimité à l'Assemblée a été depuis entièrement réécrite au Sénat, qui a supprimé des mesures phares, comme l'interdiction de la publicité. Et ça va même au-delà, constate Pauline de Brabander de l'ONG Zero Waste France.
Le problème, c'est qu'elle a été tellement amoindrie, cette proposition de loi en commission au Sénat. Exit l'affichage environnemental, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de renvoi vers un décret. En l'état, ce texte et cet article sont complètement inapplicables.
Le texte doit revenir en commission mixte paritaire au Parlement avant l'été. C'est là que tout va se jouer et qu'on verra si le lobbying de Chine a porté ses fruits ou non.
Merci Élodie Guéguen, votre enquête complète est à retrouver sur radiofrance.fr. La suite du Festival de Cannes, après une ouverture très politique, les premières stars en compétition ont débarqué comme Joaquin Phoenix ou Emma Stone, mais comme toujours les films en compétition se suivent et ne se ressemblent pas, on va le constater encore ce soir. On rejoint Antoine Guillot en direct. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Nicolas.
Vous allez nous parler de deux films, La petite dernière d'Asia Erzi et Sirat de l'espagnol Oliver Latch. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont laissé des impressions très contrastées.
Oui, pour le moins. Vous savez, le Festival de Cannes sont souvent des habitués, ce qu'on appelle les abonnés. Et puis, il y a aussi les petits nouveaux qui, même s'ils ont déjà quelques films à leur actif, prennent d'un coup une nouvelle dimension en étant exposés sur l'immense écran du Grand Théâtre Lumière. Cette année, après la découverte de l'Allemande Masha Chilinsky, ce sont l'Espagnol Oliver Latch et la Française Afsia Erzi qui ont pris sa lumière et provoqué des émotions, vous l'avez dit, pour le moins contradictoires. Le premier avec Sirat, projeté hier soir, a ainsi laissé dubitatif plus d'un festivalier et mis en transe les les autres. On ne vous cachera pas qu'on fait partie des derniers. Après Viendra le feu qui plongeait ses spectateurs dans une forêt galicienne en flammes, le cinéaste nous entraîne dans un road movie dans le désert marocain sur les traces d'un père, c'est Sergi Lopez, et de son fils qui recherche leur fille et sœur respective dans la communauté néo-punk des rave parties. S'ensuit un grand trip psychédélique sauce électro-trance dans un désert métaphysique qu'on n'avait jamais vu aussi bien filmé depuis le Jerry de Gus Van Sant et surtout le Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, explosion comprise. On en garde depuis hier soir, on vous l'avoue, les yeux toujours aussi écarquillés. C'est une toute autre émotion qui nous a étreint devant les très beaux, délicats et justes nouveaux films d'Afsia Herzi, grande actrice passée à la réalisation depuis déjà deux films. La petite dernière est le récit d'une émancipation, celle d'une adolescente de banlieue d'origine algérienne, clivée entre sa foi, les traditions familiales et son attirance pour les femmes. Le sujet adapté du livre éponyme de Fatima Das pourrait sembler éculé. Or, Afsia Herzi échappe à tous les clichés du film de banlieue et du récit d'émancipation par la grâce de son écriture, sa capacité à recréer la vie la plus quotidienne à l'écran. Elle a manifestement retenu quelques leçons d'Abdelatif Kechiche qu'il avait découvert dans La graine et le mulet. Et surtout, son regard sur cette jeune femme énigmatique et taiseuse, formidablement interprétée par une nouvelle venue, là encore, Nadia Meliti. Retenez bien son nom, une grande actrice est née à Cannes et on ne serait pas étonné qu'elle en reparte avec le prix d'interprétation.
Eh bien, on retient bien son nom. Merci Antoine Guillot, en direct de Cannes pour France Culture. Quelques mots du temps de demain. Il sera ensoleillé sur toute la France, mis à part sur les Pyrénées. Les températures maximales affichent de 15 à 21 degrés des côtes de la Manche au Grand Est, de 20 à 26 degrés ailleurs. C'est la fin de ce journal à la technique d'Aliya.